CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG où on vous parlera de tous les ateliers, repas, activités et festivités organisés par les bénévoles du Bazart, grande maison associative à Saint-Antonin-Nobleval. On vous parlera en particulier du vernissage de la nouvelle exposition de peintures, photos et sculptures de Philippe Poupé qu'on vous proposera de découvrir ce vendredi lors du vernissage de son expo IA Big Bazart. Mais ce sera après, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On retrouve à Quélus Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause enfance, nature, trolls et câlins. Avec le film d'animation peut-être le plus culte d'Hayao Miyazaki, juste après Nausicaa. Mon voisin Totoro. Un film gentiment curieux, doucement étrange. Un hymne à la nature, comme à son habitude, et à l'enfance. Un film qui cache sous une apparente simplicité une œuvre riche d'influences, de références, de messages, de niveaux de lecture, le tout fabuleusement animé et mis en scène. C'est parti. Après le succès de Nausicaa de la Vallée du Vent, Hayao Miyazaki et Isao Takahata fondent en 1985 le studio Ghibli. Ghibli qui, par ailleurs, est un mot italien signifiant « le vent chaud du désert ». Information pas spécialement utile, mais je vous la laisse là. Nos deux copains, donc, s'attellent à la réalisation, mais les réussites, disons, plus modérées des films suivants, « Le château dans le ciel » et « Kiki la petite sorcière » poussent les deux compères à adopter une autre approche. Ils se lancent alors dans la production parallèle de deux projets au ton diamétralement opposé. D'un côté, Mon voisin Totoro, et de l'autre, l'adaptation d'une nouvelle d'Akiyuki Nosaka qui relate l'histoire de deux orphelins tentant de survivre au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le tombeau des Lucioles, qu'Isao Takahata prendra en charge. Cependant, pour le petit studio, réaliser deux films en même temps pousse tout le monde dans ses retranchements. Mais après un an de travail intense, les deux films sortiront en même temps, en séance double. D'abord, Le tombeau des Lucioles, suivi de Totoro. Et il faut bien ça pour sortir du traumatisme gratuitement cauchemardesque du tombeau. Le but annoncé est d'attirer un public scolaire avec le premier film, disons plus historique, pour leur faire découvrir l'univers de Totoro. Si les entrées en salle proprement dites ne sont pas suffisantes pour former un succès commercial, les Totoro, créatures velues et souriantes, deviennent très vite extrêmement populaires et le studio reste bénéficiaire grâce aux ventes des peluches. Totoro devient dès lors la mascotte du studio Ghibli. Mais trêve de contexte, je vous résume tout ça. Notre histoire se passe juste après-guerre, entre 1945 et 1955. Dans la campagne japonaise où nos héroïnes, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s'installent avec leur père, tout près de l'hôpital, où leur mère est en convalescence, de la tuberculose. Le père s'abstente régulièrement en journée pour travailler, laissant nos deux gamines livrées à elles-mêmes. Elles y rencontrent un monde nouveau, peuplé de noiraudes, comme les appelle la vieille voisine, des petites bestioles duveteuses qui squattent les lieux abandonnés. Quand Mei essaye d'en attraper une, elle se retrouve les mains pleines de suie. Un jour, sa grande sœur part à l'école, Mei, à la manière d'Alice et son pays des merveilles, suit deux créatures bizarres jusqu'à un trou au pied d'un arbre. Elle pénètre alors dans le domaine de ce qu'elle appellera par erreur un Totoro. Mei voulait l'appeler troll, Totoro en japonais, mais bafouille, donnant ainsi son nom à l'étrange animal, sorte de croisement entre un panda et un chat et un ours. S'ensuit une série d'errances, de rencontres improbables, de jeux. Totoro, c'est un conte pastoral, une œuvre onirique, contemplative et intime. C'est un film rare, sans réels antagonistes, ce qui n'a pas plu au producteur américain, freinant sa diffusion là-bas. Cependant, les deux gamines affrontent tout de même une chose, la peur de la maladie, de la mort, de la mère, du deuil. Et le Totoro est une sorte de personnage de transition, d'accompagnement, présent quand on a besoin de lui. À peine 15 minutes dans le film, c'est dire le niveau d'angoisse. Une idée renforcée par son absence du générique de fin. La transition est finie. C'est aussi un film anticonsumériste, rempli de divinités protectrices mises en parallèle avec une partie du monde humain plus destructrice. On y trouve aussi un côté autobiographique dans l'histoire proposée par Miyazaki. Sa mère elle-même malade pendant de longues années, à tel point qu'il n'a pas voulu de frère dans l'histoire, de peur de faire remonter des souvenirs. À la base, même, il ne devait y avoir qu'une fille, Mei. Mais pour des raisons scénaristiques, Miyazaki lui donne une sœur, Satsuki. Et il faut savoir que si Mei se rapproche du nom anglais du mois de mai, Satsuki en japonais est l'appellation de ce même mois. Elles ont donc plus ou moins le même prénom. Avec ce film, on plonge dans un bouillon de culture japonaise. L'harmonie avec la nature et ses divinités animistes, dans laquelle, pour faire partir les fantômes, il faut rire. Et c'est encore une fois l'opposé total du tombeau des Lucioles, qui est beaucoup plus, énormément plus terre-à-terre, voire cendre-à-cendre. Ce sont deux films miroirs. Dans celui de Takahata, les bombes tombent et tuent, et on n'est nulle part chez soi. L'espoir n'existe que pour être détruit à coups de baramine rouillée. Mais je parlerai de cette abomination plus en détail, avec tout autant de mauvaise foi, dans une prochaine chronique. Alors que chez Totoro, les arbres protègent et poussent d'un coup comme des anti-explosions atomiques, et les moments de peur, de perte, sont tout de suite consolés, tendrement. Pourtant, certains ont eu une lecture plus sombre du film. Selon eux, Mei est morte. Et quelques éléments peuvent nous y faire penser. Les Noiroutes comme présage mortel, sur le Chabus, une autre divinité, qu'empruntent les deux filles, on peut y lire les mots comme cimetière, sanctuaire, tombeau. Il y a un plan aussi de Mei devant des statues de Jizo, une divinité vénérée au Japon, dieu protecteur et en particulier des enfants décédés. Il faut noter aussi que l'histoire se déroule dans le district de Sayama, où s'est déroulé des années plus tôt un fait divers sordide, avec à la clé la mort de deux jeunes filles. Plusieurs lectures donc. Totoro est aujourd'hui plus qu'incontournable dans la culture japonaise en particulier, notamment grâce à la musique de Joe Hisaishi, qui est pour beaucoup. On chante encore dans les classes de primaire le générique du film. Isao Takahata dira de Totoro qu'Hayao Miyazaki l'a installé dans absolument toutes les forêts et tous les bois du Japon proches des habitants. Totoro vit dans le cœur de tous les enfants du pays qui, quand ils voient des arbres, s'imaginent qu'ils s'y cachent. Une chose si fantastique et rarissime. Une œuvre culte aussi à l'international. Il y a un astéroïde à son nom et il en est venu à concurrencer comme emblème du dessin animé l'image de Mickey. Totoro, c'est un doudou. Totoro, c'est un film qui touche les tout-petits comme les très vieux. C'est un film où un voile délicat de magie se dépose sur la réalité à l'aube ou à l'aurore, quand les frontières se résorbent. C'est un objet de fascination et d'émerveillement qui nous pousse à l'évasion, au réconfort. Totoro, c'est un film qui te fait un gros câlin. Et c'est un gros câlin que vous pouvez retrouver dans votre réseau des médiathèques favoris. Bon visionnage et à bientôt.
Totoro, au piano pour illustrer la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques animée chaque semaine par Victor Le Guénec et que vous pouvez toutes retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr.
Ce soir, je suis en bonne compagnie, je te présente mon anxiété sociale. Quand il y a trop de bises à faire, je fais un coucou général. Je revois des gens que j'avais pas revus, pourtant on s'était promis qu'on se reverrait. Sur le moment, on y a un peu cru, et puis trois piges sont passées. On se demande comment ça va, alors ton job ça marche. Faire à la main, on se noie dans des discussions de surface. Sortez les petits fours, la boule à facettes, les costumes Zara, les robes à paillettes. Remplissez les coupes pour vider les têtes, l'année n'était pas folle, mais faut bien qu'on la fête. Et surtout, ne parlons pas de choses qui
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag, on vous propose le détour par Saint-Antonin-Nobleval pour ce vendredi soir du côté de Bazar. Bazar, c'est au 13 rue Saint-Angèle. C'est un café associatif, c'est surtout une maison associative qui organise donc pour ce vendredi le vernissage d'une nouvelle expo. Des expositions, il y en a tous les deux ou trois mois. C'est Catherine Buisson qui va nous détailler le programme, la coordinatrice de Bazar. Bonjour.
Bonjour.
L'artiste qui expose, c'est Philippe Poupet. Bonjour.
Bonjour.
L'exposition, ce sera IA Big Bazar. Et c'est une exposition qui est organisée dans le cadre du Pôle Art de Bazar, dont Fanny Caco fait partie. Bonjour Fanny.
Bonjour Lisa.
Le Pôle Art, c'est pas tout un roman. C'est vraiment une des spécificités du Bazar Textile de Saint-Antonin. C'est donc d'axer toute une programmation autour de l'art.
Oui, du coup, au sein de Bazar, il y a différentes commissions, différents pôles, dont donc, le Pôle Art qui s'occupe de programmer des expositions. En gros, on a une exposition par saison, donc les expositions durent 3 mois. Et l'idée, c'est de mettre en valeur les artistes du territoire, donc soit des jeunes artistes qui n'ont jamais exposé, soit des artistes professionnels qui ont une pratique très libre, donc on aime aussi bien exposer des dessins, des photographies, des sculptures. L'idée, c'est de donner un panel assez varié de la création artistique sur le territoire.
Et là, à partir de vendredi, c'est dessins, sérigraphies, photos et sculptures. Quoique des sculptures, on ne va pas beaucoup en voir, Philippe.
Oui, alors l'espace est ce qu'il est. Il y a un café en bas, il y a un mur pour accrocher. En haut, il y a d'autres murs pour accrocher, mais c'est comme c'est un endroit avec plusieurs vocations, bon, mettre une sculpture au sol, une grande ou plusieurs petites, c'est un peu problématique. Mais heureusement, j'ai dans mon sac des choses que j'ai fabriquées depuis assez longtemps et que je refabrique de temps en temps. et qui me permettent d'utiliser le plafond.
L'exposition s'appelle IA Big Bazaar, elle n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle.
Bon, enfin, c'est la nôtre. C'est plutôt des intelligences authentiques dont il s'agit. Voilà. Donc c'est un jeu de mots, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a, mais au lieu d'écrire il y a, L-Y-A, on l'a écrit I-A, pour mettre une IA quelque part, comme ça c'est rien, il y a un petit côté tape à l'œil. En tout cas dans l'air du temps, mais c'est pas de la même intelligence dont il s'agit, quoique, parce que quand on regardera les dessins, on verra que... Voilà, il y a des choses à chercher, il y a des réseaux qui se tissent.
Quelle technique vous utilisez ?
Oh, c'est très simple, c'est du fusain compressé sur du papier. Mais ces dessins-là ont une histoire, c'est-à-dire qu'ils viennent d'une expérience que j'ai fait, que j'ai voulu faire à plusieurs, et j'ai proposé de disséminer. Ça a commencé en Colombie, en France, au Mexique, à disséminer une règle du jeu qu'on devait accepter à plusieurs afin de faire un dessin expérimental collectif. Et ça part de l'idée qu'une ligne en zigzag offre plusieurs points d'attache pour le voisin. Donc c'est un dessin qui s'étend avec les voisins. Si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit, ensuite les gens reprennent, ça s'appelle repriser cette proposition. Elle est libre de droit, c'est-à-dire que j'abandonne mon droit d'auteur sitôt qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans la danse. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu appris à dessiner. Voilà, c'est-à-dire en regardant tout ce qui se passait autour de cette expérience. On suivait ou pas les règles, hein, l'être humain est ce qu'il est, donc généralement il s'échappe volontairement ou par accident des règles, et ça génère ça fabrique des formes qui sont complètement inédites, et qui sont inimitables à chaque fois. Et donc en regardant ces erreurs, j'ai compris que je pouvais essayer d'abord de les reproduire en tant qu'erreur, c'est-à-dire être tout le temps dans l'erreur par rapport à une règle, rattraper la règle, être dans les règles, et puis après c'est des choses très classiques, c'est le format du papier, l'espace qu'on a, les expériences autres qu'on a vécues, ce qu'on a vu, et puis c'est cette petite sauce fabrique un dessin réussi ou pas. Quand il est trop pas réussi, il est jeté, il est détruit, ou alors il est complété un petit peu plus tard. Donc là c'est mes dessins personnels, mais ça vient de cette expérience là. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en ligne noire sur du papier blanc.
Ça, c'est pour les dessins. On va parler aussi de la sérigraphie et des photos que vous allez exposer de la sculpture pendue au plafond de Bazart, donc à voir à partir de ce vendredi. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours et de vos inspirations ?
Oui, alors je vais un petit peu en parler, c'est-à-dire qu'il y a... Dans mon travail, il y a eu à un moment donné des rencontres quand j'ai fait ce qu'on appelle des résidences artistiques. Et qui, à chaque fois, pas à chaque fois, mais disons que ça ne s'est pas forcément réalisé, mais il y a eu des propositions comme ça de travail collectif et qui m'ont amené à découvrir ce qu'était d'un peu plus près le droit d'auteur. Donc, quand j'ai fait par exemple la première pièce qui s'appelait La Collection, on était plusieurs, mais je suis resté propriétaire de cette œuvre, qui était des moulages en plâtre dans de l'argile et qui se répétait indéfiniment. Quand j'en suis arrivé au dessin, dont je parlais tout à l'heure, j'ai aussi découvert la licence art libre. Donc ça m'a permis de... Voilà, et ça m'a permis de me décontracter avec les autres. Parce que finalement, je ne suis pas un type qui naturellement va forcément vers les autres. Donc c'est un vrai contraste dans mon travail. Et tout le reste vient d'expériences personnelles autour souvent du moulage, de l'empreinte plus exactement. Voilà. Donc on verra une de ces empreintes dans l'exposition sous forme de sculpture qui sera là, qui s'appelle Parafond, qui est suspendu au plafond, qui est un geste simple de démoulage, parce qu'en général en sculpture on montre jamais ce moment-là où on démoule les choses dans le processus qui permet d'élaborer ou de multiplier des formes. Moi j'aime bien montrer ce processus-là, je trouve qu'il permet de conserver la source et de montrer le geste et de montrer la forme finale. Voilà, mais le tout ensemble. Voilà, on les verra aussi dans d'autres pièces qui seront présentées mais sous forme de photographie comme un reportage, parce que essayant de trouver un socle final, un geste final à ce geste-là, je suis allé abandonner des sculptures dans le désert au Mexique. Voilà, mais réellement, je les ai réellement laissées là-bas. Elles y sont toujours.
Exposition de Philippe Poupée, à voir jusqu'au 26 avril et dès ce vendredi du côté de Bazar. Il était initialement prévu une soirée vernissage avec un petit concert. Le petit concert sera reporté pour un dimanche sur le marché. En tout cas, ce vendredi, pour ce vendredi, tout le pôle art notamment s'active pour repeindre les murs en blanc et pour choisir l'emplacement des œuvres qui seront proposées pour ce vendredi.
Alors oui, l'accrochage est en cours. L'accrochage est en cours et donc c'est à découvrir vendredi. J'en profite pour faire une petite annonce, c'est que donc ces murs appartiennent évidemment à tous les artistes du territoire. Donc si vous voulez nous soumettre une candidature pour être exposé, vous pouvez soit déposer un petit dossier au bazar ou sinon nous écrire par mail à bazar.pole.art@gmail.com.
Bazar qui organise donc plein d'expositions tout au long de l'année, qui héberge des artistes aussi, puisqu'il y a tout un étage dédié aux résidences, des résidences sur le long terme, avec des artistes qui présentent leurs ateliers au grand public. Et puis il y a des ateliers plus ponctuels. Catherine, tiens, il y en a un demain, tiens, tricot, couture, filage, laine.
Alors demain ce sera crochet. On est super heureux de pouvoir accueillir tous les mercredis après midi désormais des cafés laine, donc ça alterne, soit c'est du tricot, soit c'est du crochet, donc ça dépend, des fois parfois c'est Karine, parfois c'est Vanessa qui vous guide, soit dans vos premiers pas, soit pour faire des progrès dans ces domaines. C'est vraiment une ambiance très sympa au café, faut venir tenter sa chance. On se dit qu'en le faisant tous les mercredis, maintenant, on n'aura plus à se prendre la tête. On sait que, voilà, si vous avez envie de traficoter de la laine, n'hésitez pas à venir le mercredi entre 15h et 17h.
Bazar qui est estampillé espace de vie sociale par la CAF, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que c'est?
Alors, un espace de vie sociale, c'est un lieu où on accueille toutes les initiatives des habitants. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous proposer des ateliers, des soirées, des thématiques. On est ravis de pouvoir les organiser. C'est un des aspects d'un espace de vie sociale.
C'est quoi les autres?
Alors les autres, c'est aussi qu'on peut devenir bénévole. Et également, il y a toute une partie de faciliter l'accès aux informations, aux droits. On est en train de travailler sur la mise en place, avec la communauté de communes, sur la mise en place d'une petite application sur les infos et services, les infoservices à la population sur le territoire. On espère que ça va bientôt voir le jour.
Un espace de vie sociale, des expositions, un café associatif, des ateliers d'artistes, une friperie chic, des ateliers réguliers tels que celui de demain, et puis on a plein d'autres. Il y a un atelier foro, il y a un atelier, un bol bazar, là c'est le repas, la cantine des bénévoles. Il y a tout un tas de choses qui se passent dans ce lieu, donc au 13 rue Saint-Angèle, où on peut venir faire le détour juste comme ça, voir ce qui se passe. Sinon, sur votre site internet, on retrouve tout le programme. Il y a quelques petites nouveautés, je crois. Alors on a parlé de l'atelier de demain mercredi autour de la couture, mais il se passe quand même régulièrement des choses inspirées, proposées par des bénévoles.
Alors il y a des ateliers ponctuels, comme là ce mois-ci Patricia va proposer un atelier sur le collage artistique le samedi 7 février de 14h à 17h. Donc là c'est vraiment super pour nous, c'est une personne qui a envie de partager juste un seul temps comme ça sur une de ses passions. Et puis il y a des personnes qui ont envie que ça s'inscrive davantage dans le temps. Là ce sont les ateliers de Lola Jacrémy qui sont autour de débats philosophiques, de discussions. Et il y a eu un premier atelier en janvier et là le deuxième aura lieu en février. Le 14 février, et la thématique est chouette, hein, puisque ce sont les participants qui choisissent un thème chaque mois, et là ce sera le propre du courage, est-il d'être subversif? Tout un programme.
N'est-ce pas? Programme qu'on peut retrouver, on l'aurait dit, sur le site internet de Bazart, sur les réseaux sociaux, ou en venant discuter avec le CA, avec les bénévoles de Bazart, là, à partir de ce vendredi, pour déguster une petite apéro et boire ce qui nous sera proposé lors du vernissage de l'inauguration de la nouvelle expo IA Big Bazar, une exposition des dessins, sérigraphies, photos et sculptures de Philippe Poupée, à qui je vais laisser le mot de la fin.
Le mot de la fin, là, ça sera... Oui, là, ça n'est jamais qu'un début.
Philippe Poupée, l'artiste sélectionné par le Pôle Art de Bazar, dont fait partie Fanny Cacou, et pour la coordination de ce lieu au 13 rue Saint-Angèle à Saint-Antonin, Nobleval, Catherine Buisson, un grand merci à tous les trois.
Merci. Merci.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 18h et à 21h. Et comme de coutume, vous pourrez le réécouter en podcast sur notre site cfmradio.fr. Restez pour la suite depuis Montauban avec Rémi. Ce sera juste après les infos.